Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Depuis que l'on parle beaucoup de retour de la guerre, on évoque en parallèle les forces morales, y compris dans la bouche de ceux qui n'ont eu de cesse depuis des décennies de déconstruire les fondements de notre civilisation tout en imposant un nouvel ordre moral à base de lois, de procès médiatiques, de campagnes d'opinion bien orchestrées et bien financées. Mais bien entendu, cette question des forces morales n'était pas ignorée dans les armées françaises. Toutefois, il ne semble pas que cette question ait été l'objet, depuis 30 ou 40 ans, d'une attention particulière, tant les problématiques budgétaires, les problématiques d'organisation étaient prioritaires dans un contexte général d'apaisement, d'éloignement de la guerre. Mais avec notre cher ami Axel Aignel, qui hélas aujourd'hui ne pourra pas être avec nous, nous avons choisi d'inviter un homme qui, lui, a mesuré concrètement dans sa vie professionnelle l'importance des forces morales. Et je veux parler de notre invité du jour, Pierre Gillet. Bonjour Pierre.
Bonjour Philippe.
Général de corps d'armée en deuxième section, auteur aux éditions du Cerf d'un ouvrage intitulé « Les forces morales, les clés de la réussite ». Et le général Gillet est Saint-Cyrien, a longtemps servi dans la Légion étrangère, il y a commandé le 2e régiment étranger, il fait partie de cette catégorie d'officiers généraux qui, depuis le grade de lieutenant jusqu'aux plus hautes responsabilités, eh bien finalement a participé aux opérations extérieures conduites par l'armée française. Il a servi à l'état-major des armées, il a commandé les écoles de Draguignan, il a commandé le corps de réaction rapide de Lille. Et donc au total, une riche expérience professionnelle qui lui a permis, et ça sera le sujet de notre émission, d'expérimenter l'importance des forces morales et une importance que, par sa réflexion, il a étendue au-delà de leur impact et de leur usage dans le monde militaire. Et donc, mon cher Pierre, avant d'entamer proprement dit cette émission, je voulais souligner que, d'une certaine façon, vous dédiez votre ouvrage à Jeanne d'Arc, et je crois que mettre cette question des forces morales sous l'égide de Jeanne d'Arc a une signification profonde. Et sur ce point, en préambule, je souhaiterais en savoir plus sur votre lien joannique.
Merci Philippe de votre invitation, j'y suis très sensible et puis je prends ça comme un grand honneur. Donc je vais quand même vous répondre d'emblée sur Jeanne d'Arc. Pour moi, c'est une question de fascination et de dévotion. De fascination parce qu'il faut imaginer, pour un général de corps d'armée, donc je ne vais pas me comparer à Dunois quand même, je ne vais pas oser, mais imaginez un général de corps d'armée au siège d'Orléans. Ils se sont pris une tôle 2 mois ou 3 mois avant en essayant de faire une sortie en rase campagne pour repousser les Anglais. Et il y a une jeune fille de 17 ans, qui n'a aucune expérience militaire, évidemment, qui se pointe dans leur camp et qui leur dit « Faites-moi confiance, je suis envoyé de par le roi et puis par le roi du ciel. Faites-moi confiance, ça va fonctionner et dans une semaine, Orléans sera libéré. » Et ce qui est absolument fascinant, c'est que Dunois et ses capitaines lui font confiance. Voilà. Alors ça, c'est le côté fascinant. Et du coup, le côté dévotion, c'est que pour moi, il est absolument impossible de comprendre Jeanne d'Arc si on ne rentre pas sa dimension surnaturelle. D'ailleurs, une fois, un professeur à l'IEDEX m'a fait une remarque en me disant tu as osé utiliser Jeanne d'Arc avec tout ce qu'on raconte sur elle. Je lui ai répondu soit ça fait 600 ans qu'on nous raconte des carabistouilles, soit c'est vrai, et personnellement, je pense que c'est vrai. Voilà. Et je terminerai juste sur Jeanne d'Arc parce qu'il y a quelque chose que j'ai mis dans le livre et j'avais essayé de négocier avec l'éditeur de mettre hardiment comme titre du livre. Bon, bref. Et quand elle répond au procès d'Orléans, au procès de Rouen, quand elle demande à ses voix ce qu'elle doit répondre à des juges ecclésiastiques qui sont bien, 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 parce qu'elle est analphabète compétent qu'elle, ses doigts lui répondent de répondre hardiment. Et je pense que ce mot hardiment peut être un vrai mot d'ordre. Et moi, je constate quand j'ai la chance de pouvoir former des étudiants, quand je leur dis bon, hardiment et que je fais allusion à Jeanne d'Arc, ça leur parle tout de suite. Voilà.
Et donc, cet adverbe pourrait être un élément du fil rouge de notre émission consacrée aux forces morales, qui en réalité nous renvoie, et vous l'expliquez bien, hein, aux vertus cardinales que sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. Mais au fond, ce hardiment peut relier d'une certaine façon l'usage ou la mise en œuvre de ces quatre vertus. De ces quatre vertus cardinales. Et je dois dire qu'à titre personnel, si vous aviez mis en dessous des forces morales, entre guillemets, hardiment, ça aurait été peut-être, non pas plus attractif, mais plus représentatif de ce que vous voulez dire et faire passer comme message. Mais bon, retenons que ce terme hardiment est lié à votre vénération et votre admiration pour la petite bergère Lorraine. Et puis, il y a un deuxième élément qui sert de première partie à notre émission, parce que dans votre ouvrage, qui est extrêmement dense, parce que on a là des considérations à la fois anthropologiques, philosophiques, parfois même stratégiques ou tactiques, et puis aussi théologiques. Parce qu'on ne peut pas échapper aux théologies quand on évoque les vertus cardinales. Mais il y a une phrase que je considère comme clé dans votre ouvrage, alors ça ne sera peut-être pas le cas de tous les lecteurs, mais qui m'a beaucoup frappé parce que vous dites par là que la finalité de tout ça, de ces forces morales, de ces vertus cardinales sur lesquelles nous reviendrons, eh bien c'est motivé parce que nous sommes faits pour la grandeur. Alors que voulez-vous dire par là dans une époque un petit peu horizontal, où la grandeur effraie, et même dans le monde catholique, paraît tellement antinomique par rapport à l'humilité, vertu centrale aussi, qu'on a du mal à parfois à s'y retrouver. Alors, quand vous dites, au fond, nous sommes faits pour la grandeur, qu'est-ce que vous voulez dire?
Déjà, le terme, bon, il est emprunté à Diany Lavard, donc je ne vais pas redévelopper ce que dit très, entre guillemets, de manière très pertinente Diany Lavard, mais moi, je vais commencer par trois constats. Le premier constat, c'est la médiocrité ambiante, d'ailleurs le pendant de hardiment, quoi. La médiocrité, en fait, et le père Garrigou Lagrange l'a défini très bien, il dit, c'est ni bien ni mal, c'est entre les deux, quoi. C'est presque l'anti-vertu, parce que la vertu, c'est un sommet. Donc la médiocrité, c'est une espèce de truc plat, et on voit bien quand on dit à quelqu'un c'est médiocre, finalement on a tendance à dire c'est nul. Voilà, ça c'est le premier point, la médiocrité en blanc. Après, c'est deux autres constats très, très. Oui, deux. Vous me recevez là?
Ah là, on avait un petit problème, votre connexion ne semblait pas stable, alors peut-être c'est une question de position par rapport au micro, mais
Ouais, mais il faut dire que en fait.
on avait
Est-ce que c'est mieux
quelques...
là?
Là, c'est mieux, voilà, là je vous reçois bien, là. Oui, allez-y, Pierre.
Oui. Je suis à l'ombre de l'abbaye Sainte-Madeleine. Je suis à l'ombre de l'abbaye Sainte-Madeleine. Alors, je pense que ça va être l'office, donc ils envoient des ondes positives qui troublent à l'émission.
Bon, il faut que vos anges nous amènent
Donc,
jusqu'à Paris, notre conversation dans de bonnes conditions. Alors, donc, je vous écoute, Pierre. Sur
Et
la
donc, du coup, là, je ne sais
grandeur,
pas
la
si vous avez reçu
médiocrité.
entendu ce que j'ai dit sur la médiocrité.
Oui, mais
Voilà, donc la
pas
médiocrité
tout à
ambiante.
fait. Donc, je pense qu'il faudrait reprendre. Vous évoquiez la médiocrité ambiante. Et la nécessité finalement de cette grandeur. Et moi, je faisais remarquer que nos contemporains ont bien du mal parfois à comprendre ce qu'elle est vraiment.
Justement, bon, la médiocrité, on le voit, bon, c'est ni bien ni mal, c'est une espèce de truc plat, quoi. Donc,
Une espèce
plat, tout
d'indifférence
simplement.
au
Voilà.
bien et au mal, au beau, au vrai ou au grand.
Exactement, plat. C'est un peu notre société, plate, liquide, comme disent certains. Voilà. Après, il y a deux constats quand même très opérationnels. Le premier, c'est les actes de bravoure dans les armées. J'ai en tête de manière très précise un radio d'une section du deuxième étranger à Sangaris, dans les herbes à éléphants, qui s'est
Là,
mis
c'est
pendant une
en République centrafricaine.
voilà, en République centrafricaine, qui s'est mis devant son chef de section pour le protéger pour des tirs, en disant, vous ne pouvez pas être tué, on a besoin de vous. Voilà. Donc c'est déjà un premier élément d'espèce de grandeur, quelque chose au fond de nous-mêmes qui appelle à se dépasser. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est, on sait tous, sur le plan professionnel, que quand ça a de la gueule, et ben ça marche. Voilà. Une unité qui a de la gueule, on se dit, comme par hasard, elle est plus solide, elle est capable de tenir un quart d'heure de plus, elle est capable peut-être de conquérir la ligne de crête d'après. Il y a quelque chose de plus qui se dégage d'une unité qui a de la gueule. Et le cas de la gueule, c'est simplement des exigences supplémentaires. Vous voyez, dans l'entraînement, ils vont un peu plus loin, les exigences, la rigueur formelle, ils vont un peu plus loin. Et c'est une accumulation, ce qui est très vrai à la Légion étrangère, mais pas qu'à la Légion, qui concerne beaucoup d'unités de l'armée française, Dieu merci. Mais voilà, c'est cette espèce de truc en plus. Voilà. Donc, si vous voulez, mon radio de l'opération Sangaris, plus cette espèce d'impression de force qui se dégage d'une unité qui est entraînée, qui en fait toujours un peu plus, si vous voulez, c'est cette notion de un peu plus. Et cette grandeur, c'est qu'en fait, on n'est pas fait pour la médiocrité, on est fait pour en faire un peu plus. Et c'est ça qui fonctionne. Et on le voit sur le plan opérationnel, ça fonctionne. Et je pense que dans une entreprise où les collaborateurs sont motivés, c'est-à-dire ils ont envie, entre guillemets, de donner leur cœur, leurs bras, leur intelligence au service de l'entreprise, ça s'appelle tout simplement la grandeur d'âme, et ça fonctionne.
Alors là, vous venez d'évoquer un autre terme, c'est celui de l'âme. Votre livre évoque à la fois la grandeur d'âme et le supplément d'âme. Dans votre carrière militaire, bah, vous évoquez le cas d'un radio en République centrafricaine. Est-ce que ce supplément d'âme, vous avez pu aussi en mesurer l'importance, l'efficacité ou mieux la fécondité dans d'autres circonstances, que ce soit comme officier subalterne ou avec plusieurs étoiles sur les manches, ce supplément d'âme a-t-il marqué votre carrière ici ou là?
Il y a d'abord sur le supplément d'âme, nous on a eu la chance à Saint-Cyr d'avoir comme instructeur le général Georges Hollin, celui qui avait
Bien
reconstruit
connu.
Notre-Dame. Voilà, bien connu. Donc, et ça, c'est quand même un point sur lequel il insistait. C'est-à-dire, il insistait quand même sur ce quelque chose de plus qui est du domaine de l'immatériel et du spirituel et pas que qui est du domaine technique et du domaine pratique. C'est là, il est évident qu'on ne peut pas faire un métier correctement si on n'est pas compétent. Voilà. Et d'ailleurs, Napoléon disait que ces gens-là étaient des gens
Oui,
foutres.
qu'il n'y
Mais
avait pas de plus
Napoléon
grande immoralité que de faire un métier qu'on ne connaissait pas.
Exactement. Mais en même temps, il disait que, entre guillemets, la force d'âme, c'était rentrer pour trois quarts dans la réussite d'une bataille. Et si je reprends même le maréchal Foch, j'aime bien le citer quand j'interviens dans des milieux civils, en disant « Est vaincu celui qui s'avoue vaincu voilà. ». Donc, en fait, c'est tout ça. Mais je pense que pour répondre à votre question de manière plus personnelle, il est difficile de considérer le supplément d'âme sans la foi, voilà, pour moi.
Oui,
Parce
c'est
que
pour ça que
sinon,
tout
on
à l'heure
reste
je
sur la même
disais
unité.
que votre livre avait une certaine complexité. C'est que on part de constats plutôt psychologiques, et puis à un moment donné, on est obligé d'arriver à la foi. Mais pourtant, parmi vos lecteurs, j'imagine que tous ne partageront pas vos convictions religieuses ou votre foi. Alors, est-ce que ça veut dire dans votre raisonnement que, à un moment donné, quand on a expérimenté ces forces morales, ces vertus de prudence, de justice, de force et de tempérance, ben on est sur un chemin de conversion, parce que c'est presque ça, non?
Je n'irai peut-être pas jusque-là parce que je ne suis
Oui.
pas compétent pour le dire, mais
Non, mais de temps en temps, on voit bien que dans votre livre, vous suggérez quand même que au-delà de ce constat psychologique ou moral ou intellectuel, il y a quelque chose de la démarche de la foi qui est engagée quand on met en œuvre ses vertus.
Pour en fait, je vais rassurer nos auditeurs qui ne croiraient pas ou qui se diraient qu'est-ce que c'est que ce nouvel ordre moral. En fait, ça s'adresse à tout le monde. C'est la raison pour laquelle de temps en temps vous sentez un peu le grand écart, en disant il y
Oui,
a
et
une
parfois on
ça
se
s'adresse
dit,
à tout le
il est
monde.
un petit peu en difficulté, c'est un peu compliqué pour lui. Voilà.
Oui, et c'est d'ailleurs, il y a des fois, ouais, c'est tout à fait exact. Et en fait, c'est pour ça que j'essaie
Ben, si vous
de
voulez,
pas.
je vous interromps 2 secondes pour vous donner vraiment mon impression. Alors, elle va peut-être vous paraître un peu triviale, mais j'ai l'impression que vous savez, comme des grands cuisiniers ou une bonne mère de famille qui cuisine bien, elle fait un excellent plat, et puis au moment où on lui dit, mais comment on fait? Alors, soit il y a celle ou ceux qui livrent toute la recette, et puis il y a ceux qui disent, oui, mais il y a le petit truc que je vais peut-être pas vous livrer. Mais vous, vous nous servez une excellente recette et vous nous dites ou vous nous laissez entendre que quand même, au fond, le vrai secret, il se niche quelque part au fond de l'âme. Et qu'il a, il
C'est
a.
Jeanne d'Arc.
Ben oui, ben oui.
Mais je pense que, vous voyez, je répondrai à ça deux choses. La première, c'est que il y a les vertus cardinales sont des vertus acquises, c'est-à-dire pas à pas. On reviendra peut-être dessus.
On
Et les
reviendra
vertus
dessus, oui.
théologales, c'est des vertus infuses. C'est-à-dire, en fait, c'est par la grâce, donc bon, pour ceux qui croient, donc c'est par la grâce, c'est-à-dire, elles ont Dieu pour origine et Dieu pour fin. Donc, en fait, il est souvent dit, et là, je me réfère un excellent ouvrage du père Garrigou Lagrange s'appelle Les Forces morales. Donc, je vois que vous avez Joseph
Vous
Pieper,
voyez bien.
vous.
Non, pour nos auditeurs, parce qu'il se trouve que notre invité voit le studio, et donc j'ai son ouvrage, Les Forces morales, et puis un excellent livre d'un philosophe allemand aujourd'hui décédé, qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait Le Quadrige, Prudence, Justice, Force et Tempérance, où il montrait l'importance dans le monde moderne de ces vertus cardinales. Je vois que vous observez bien.
J'ai des yeux. En fait, c'est après, on en parlera peut-être du niveau de la vérité, de la réalité, du réalisme. C'est bon, je ferme la parenthèse. Mais je reviens sur les vertus acquises et les vertus infuses. Donc, Garrigou Lagrange, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, les vertus théologales qui sont infuses par la grâce de Dieu, elles viennent stabiliser les vertus cardinales. Donc, la difficulté que j'ai eue, c'est de dire, bon, ce qui est accessible à tout le monde, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, c'est les vertus cardinales. Et ne nous en privons pas. Voilà. Et après, il y a cette dimension, ce supplément d'âme, qui vient d'une manière très claire de la foi et de la grâce, et qui sont les vertus théologales. Mais quand même, des fois, on a des expressions ouais, qui surprennent. Ouais, il a été habité. Vous voyez, quand quelqu'un fait un truc génial, on
Oui.
est habité. Bon, et parfois, on a envie de dire habité par qui, par quoi? Et la réponse est peut-être parfois se fait attendre. Mais par qui, par quoi? Un croyant le sait par Dieu lui-même.
Alors c'est vrai
Voilà.
que si on revient à la philosophie antique, chez Aristote, chez Platon, et puis ensuite dans le monde romain, avec Cicéron et Sénèque, on retrouve de toute façon ces vertus cardinales. Alors certes, elles n'étaient pas stabilisées, comme vous dites, par la grâce, mais elles étaient déjà mises en avant comme fondement de la, comme fondement de la personne. Et même au-delà, c'est pour ça que dans mon introduction, j'évoquais les forces de déconstruction, elles sont facteurs de civilisation. Aucune société ne tient dans la durée si nous n'avons pas, si nous ne sommes pas habités par la prudence, la justice, la force et la tempérance. Donc il y a des vertus. Vous le dites dans votre ouvrage, à travers votre expérience professionnelle, que ce soit dans les armées ou vous évoquez aussi l'entreprise, ces vertus-là sont des vertus qui contribuent à faire durer les choses, à faire durer les institutions. Donc peut-être que sans évoquer la question de la foi, on peut déjà reconnaître à ces vertus une vertu sociale qui permet à une société de durer.
Ce qu'il y a, c'est que les vertus, elles ont. En fait, on devient ce qu'on fait. Bon. Donc, et à force de poser des actes bons, les vertus, elles président non seulement à ce qu'on devienne meilleur, mais à ce que nos actes soient bons. Et donc, en fait, on se rend bien compte que, par exemple, un patron qui serait prudent, c'est-à-dire au sens en disant ses décisions sont sages, un patron qui serait juste, c'est-à-dire on a envie de le suivre. Un patron qui n'a pas peur de prendre ses décisions et un patron qui est maître de lui, donc qui est courageux et qui est tempérant, je pense qu'aucun de mes auditeurs va me contredire en disant bah, celui-là, je ne le suis pas. Évidemment, tout le monde va le suivre. Et ça existe. Et on a des exemples. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis, parfois, je dis, faisons le pari des forces morales et des vertus cardinales, parce que ce n'est pas pour rien que ça fait 2400 ans que c'est sédimenté. Que ça a été repris par la philosophie classique, par la philosophie chrétienne, et voire bien au-delà. qu'on peut parler de vertu cardinale à un Chinois ou un oriental, il les comprend de la même manière que nous.
Alors, est-ce que vous avez occupé des postes à, je pense notamment quand vous commandiez le corps de réaction rapide à Lille, des postes où vous aviez des officiers de d'autres nationalités que la nationalité française. Est-ce que vous avez pu partager avec ces camarades étrangers cette conviction? Là, vous nous parlez des Chinois, mais est-ce que chez les Espagnols, les Belges, les Allemands qui sont à Lille, vous avez eu l'occasion d'échanger sur ce sujet et en tout cas dans un univers international, vous avez vu l'utilité et l'efficacité de ces vertus.
En fait, c'est trop facile. Je veux dire, je parlais des Chinois et des Orientaux parce qu'en fait, ils sont loin de nous. Et donc, c'est pour dire que c'était quand même universel. Et si je reviens, je disais c'est trop facile parce qu'en fait, n'en déplaise à certains, il y a quand même une culture commune et avec des Européens. Et il y a quand même ce fond de culture chrétienne, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ou qu'on le reconnaisse ou qu'on le reconnaisse pas, qui infuse. Et donc, si je parlais de justice, si je parlais de courage, si je parlais de maîtrise de soi, pour prendre la tempérance, et si je parlais d'avoir une méthode qui nous amenait à avoir des vraies options pour faire des vrais choix et atteindre un objectif, donc je parlais de prudence indirectement, bah, tout le monde était tout à fait convaincu que c'était valable. Voilà. Et je
Alors
parle
là,
moins qu'un Allemand, un Allemand ou un Anglais ou un Belge ou un Espagnol ou un Italien et du bien fondé de cette pratique.
Mais est-ce que vous avez observé des façons particulières, selon la nationalité, d'aborder ou de mettre en œuvre ces vertus? Est-ce que on y reviendra parce que sur la question de la prudence, notamment, mais est-ce qu'il y a une façon espagnole ou allemande d'être prudent ou d'être tempérant ou d'être juste.
Ouais, je n'ai pas remarqué,
Parce que
honnêtement.
universalisme, oui, mais après, vous savez, aujourd'hui, on parle de localisme. Donc, au sein d'un état-major, ça m'intéresserait, moi, mais peut-être nos auditeurs aussi, de savoir s'il y a une approche de ces vertus que tout le monde partage, mais qu'on peut peut-être mettre en œuvre selon des tempéraments nationaux.
Alors, on est quand même façonné par notre culture,
Oui.
on est façonné par notre histoire. Donc, je pense que je ne surprendrai personne. Si je disais que les Anglais étaient un peu plus pratiques, que les Allemands étaient beaucoup plus théoriques et planificateurs, voilà. Les plus proches de nous, c'était les Belges. Voilà. Mais c'est très difficile de dire, parce que dans un état-major, il y a des procédures. Et donc, en fait, il y a une méthode de planification et des procédures avec des rendez-vous à temps. Donc, c'est très difficile de discerner
Les
les différents
tempéraments dans le
tempéraments,
cadre d'une
mais.
procédure qu'on déroule.
Voilà, ce qu'on voit plus, c'est les errements nationaux. Vous voyez, par exemple, en Allemagne, ils sont soumis à la directive européenne du temps de travail. Donc, si vous voulez les faire travailler après les heures réglementaires, ça devient la galère. D'ailleurs, bien heureux, les armées, la nôtre pour l'instant, qui résistent, qui n'ont pas appliqué cette directive inepte pour des forces comme les armées, quoi. Mais donc, il y avait ces errements-là, mais dans la culture profonde, c'est difficile à voir. Et d'ailleurs, je pense que sur certaines discussions sur le christianisme que j'ai pu avoir, par exemple avec mon adjoint allemand, qui était le général adjoint, c'était un Allemand, là pour le coup, on était très proches.
Alors, nous approchons presque la demi-heure d'émission et je m'aperçois que j'ai fait une faute contre l'esprit parce que nous avons parlé de ces quatre vertus sans que les auditeurs ont compris de quoi il s'agissait. Mais est-ce que, cher Pierre, vous pouvez très rapidement nous les redéfinir?
Ouais, je vais faire
Parce
très
qu'après, je
simple.
voudrais qu'on insiste sur la prudence. Mais voilà, faites simple, vous aimez Foch. De quoi s'agit-il?
Voilà. Donc, je vais faire très simple, parce qu'en fait, sinon, on peut y passer la nuit. Bon, il y a et puis en même temps, on peut se perdre. La prudence, qui est entre guillemets la vertu, hein, qui cadre toutes les autres, d'où votre appétence pour en reparler un peu plus. La prudence, les Anglais traduisent par practical wisdom, ils traduisent par sagesse pratique. Voilà. Donc, à mon avis, c'est assez explicite. La justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû et laisser les gens disposer librement de leurs droits. Il y en a certains qui devraient s'en inspirer. Mais donc, ce qui n'est pas forcément facile, parce que dans le cadre d'un contrat, c'est facile, mais dans le cadre de quelque chose de plus immatériel ou d'un travail ou de l'appréciation d'un travail, c'est plus difficile. Donc, pour moi, la justice, c'est la vertu de la cohésion du groupe, parce que ça donne à chacun une place et ça met chacun à sa place. Voilà. Après, vous avez le courage, qui est plutôt décrit dans la philosophie comme la vertu de force, qui me semble plus pertinent, qui est en fait très simplement, c'est pas simplement ne pas avoir peur, quoi, et dépasser ses peurs. Enfin, la vertu, c'est un juste milieu, donc c'est ni la peur inhibante, ni la témérité, mais c'est dépasser sa peur, quoi. C'est aussi aller au bout de son engagement. Donc voilà, c'est une espèce de. Il y a une dimension qui n'est pas que physique, il y a une dimension morale, et qui est aller jusqu'au bout de ses engagements, et c'est ce qui explique comment que par exemple, des martyrs chrétiens ont préféré le martyr que d'être infidèle au Christ. Voilà. C'est l'aboutissement de la vertu de force. Et après, la tempérance, c'est souvent présenté comme l'autodiscipline, c'est-à-dire l'autodiscipline de ses passions, l'autodiscipline de ses pulsions, et aussi l'autodiscipline de son tempérament. Et ça débouche sur un truc qui me paraît absolument génial sur le plan du commandement, sur le tact, c'est-à-dire une certaine modération.
Alors, quand on regarde ce quadrige, c'est le terme qu'emploie le philosophe Joseph Pieper pour englober ces quatre vertus. Vous disiez que j'avais, moi, de l'appétence pour la prudence, qui me semble être cardinale parmi les cardinales. Est-ce que vous abondez dans mon sens, ou est-ce que vous contestez un petit peu cette place centrale que on peut accorder à la prudence, qui me paraît infuser toutes les autres? Donc ça, c'est ma première question. Puis la deuxième, c'est comment un chef militaire à tous les niveaux de votre carrière a pu la mettre en œuvre?
Alors là, je suis complètement en phase avec vous sur le fait que c'est la maîtresse des vertus. Alors, il faut quand même dire aux auditeurs que l'intérêt des vertus cardinales, c'est qu'elles sont connexes, c'est-à-dire en développer une, c'est développer les autres. Et en manquer d'une, c'est impossible de développer les autres. Donc
Oui, elles
c'est
sont
connexe.
toutes liées.
Voilà. Et donc, la prudence, on dit que c'est la mère des vertus parce que, en fait, enfin, c'est les maîtresses dans ce domaine. Parce que c'est celle, on a, pour faire très simple, on a un objectif à atteindre. C'est celle qui va nous dire, OK, cet objectif, il en vaut la peine. Déjà, si on pourrait atteindre un objectif. Si je veux décider de remonter, de faire un pari avec quelqu'un et de prendre l'autoroute à l'envers, pour faire un record en prenant l'autoroute à l'envers, je peux très bien avoir des modes d'action extrêmement habiles, réussir à le faire. Et on va me dire, putain, t'as réussi, mais pour autant, c'était complètement imprudent. L'objectif est complètement
D'où la
débile.
question de la finalité.
Voilà, donc c'est premièrement la prudence, c'est la garantie que le but en vaut la peine. Puis comme ce but en vaut la peine, il faut aussi avoir un chemin pour y aller. Et donc la prudence, c'est la vertu par laquelle, et qui va nous dire, voilà les chemins possibles, et qui va nous aider à faire un choix parmi ces chemins possibles. Donc de ce point de vue-là, je rebondis sur la deuxième question, sur le chef militaire, il faut une méthode. Et la méthode, ce qui est intéressant, c'est que c'est pratiquement toujours la même. C'est un, se renseigner. Deux, se faire conseiller. Alors là, on pourra en dire aussi des choses parce que il y a des fois, on se demande qui conseille. Et le conseiller n'est pas le payeur. Donc,
On va y
le chef.
revenir. On va y revenir sur cette
Hein?
question-là.
Donc, je ne développe pas plus. Donc, se faire conseiller. Puis, élaborer des modes d'action, avoir des vrais choix. Parce que s'il y a une solution évidente, il n'y a pas de choix. Il faut être abruti pour prendre la solution qui n'est pas évidente, s'il y en a une évidente. Bon. Donc, il faut avoir des vrais choix, ça nécessite de réfléchir, d'échanger. Donc, se faire conseiller, avoir des vrais choix, ça nécessite une intelligence collective. Puis, décider, c'est-à-dire en choisir une des options avec des critères, puis la mettre en œuvre. Et la prudence s'arrête quand elle est mise en œuvre. Voilà. Et c'est de ce point de vue-là, je pense que la prudence est pour un chef militaire, comme pour un chef d'entreprise ou pour un chef de projet, etc., est majeure. Et de bien la comprendre autrement que si je peux me permettre une vulgarité. Vous m'en autorisez une,
Allez-y,
Philippe?
même sur Radio Courtoisie, on peut parfois
Une
accorder
seule.
quelques
C'est-à-dire,
privilèges.
quand on dit pas de couilles, pas d'embrouille, voilà, c'est quand même
Bah, la rime n'est pas
considérer la prudence
exceptionnelle,
comme.
mais le fond est compris.
Voilà. C'est-à-dire, si on la considère comme ça, c'est sûr qu'en fait, il faut la bannir immédiatement. Mais il faut la considérer comme je viens de le dire. En fait, c'est la fin est bonne et il faut trouver le bon chemin. Il va nous le donner. Je le prends et ensuite, je m'arrête que quand j'ai terminé.
Alors, vous nous suggériez que la question du conseil et donc des conseillers est quand même très importante dans ce processus marqué par la prudence. Est-ce que vous avez été dans des situations où les conseils vous manquaient ou voire les conseillers vous manquaient? Parce que une fois qu'on évoque le conseil, il se pose la question de la décision et souvent dans l'administration au moins on a beaucoup de conseillers mais au moment de la décision un certain vide peut être observé. Donc sur la question du conseil et des conseillers, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ben, d'intéressant puis d'utile aussi?
Alors, c'est d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas trop bien le milieu militaire, un général en opération, il est flanqué de conseillers. Il a un conseiller renseignement, un conseiller air, un conseiller communication. Enfin bon, je ne vais pas tous les lister. Il a un conseiller politique. Donc, les conseillers, ils ont pour but, ce sont des experts de leur domaine. Le général ne peut pas être un expert de son domaine. Et je pense que d'ailleurs, un chef
Ben c'est
d'entreprise
un
n'est pas
expert
un expert de tout.
de la généralité.
Voilà, bah en
Enfin.
fait, on est expert de rien. Donc, en fait, on a besoin d'avoir des conseils techniques en disant, si vous faites comme ça, voilà les conséquences. Et moi, je pense que le conseiller, c'est pas celui qui dit, il faut faire ci ou faire ça. C'est quelqu'un qui est capable d'ouvrir les options et de dire, vous avez trois options possibles. Le conseil juridique et le conseil diplo, ils étaient vraiment très bons là-dessus pendant l'opération Sangaris. Et vous avez plusieurs options, 1, 2, 3, voilà les conséquences. Il me disait, donc j'avais besoin, c'est comme le conseiller santé, c'est-à-dire il y a eu une épidémie de gastro-entérite, enfin bon, ils n'appelaient pas ça comme ça. Moi, je ne suis pas médecin, c'est-à-dire je ne sais pas ce qu'il faut faire. Quand le conseiller santé me dit, bon, vous avez deux options, soit on isole tout le monde, soit on prend très le prophylaxie, voilà l'inconvénient de la première et l'avantage de la première, l'inconvénient et l'avantage de la seconde, il est dans son domaine. Donc ça, c'est la première chose que je dirais des conseillers. Donc les conseillers ne sont pas les payeurs. Ce sont des conseillers et ça ne dispense pas le chef ou le patron de prendre la décision. Ensuite, je fais une petite remarque sur les conseillers. C'est un peu, je fais ça de manière un peu provocatrice, mais je dis il y a trois choses. Il y a l'avis, il y a l'opinion, on s'en fout, l'avis, pourquoi pas, et le conseil. Donc l'opinion, c'est-à-dire... Si je demande à un quidam, au fait, j'ai une épidémie de gastro-entérite, qu'est-ce que t'en penses? Il peut me dire ce qu'il veut. Je ne sais pas quelle est sa compétence. Bon, on peut miser sur le bon sens, mais c'est pas forcément donné à tout le monde. Voilà, donc on s'en fout des avis. Il y a plein d'avis de partout sur Internet. Moi, personnellement, ça m'a jamais particulièrement intéressé les opinions. La deuxième chose, les avis. Vous avez quelqu'un qui connaît. Il peut toujours vous donner un avis en disant bah, moi j'ai déjà vu ça, voilà ce que j'ai déjà vu et je te le donne comme un avis. Et après, il y a le conseil que je mets à un niveau supérieur parce que le conseiller, il est dans la chaîne de commandement. Il est proche de vous. Donc, si je prenais un mot un peu théologique, il a une grâce d'État. C'est-à-dire, en fait, il comprend des choses que quelqu'un de la même compétence que lui, qui n'est pas dans la chaîne, n'abordera pas de la même manière. Donc, le conseiller, il doit être dans la chaîne. Et c'est la raison pour laquelle, dans les régiments, par exemple, il y a une décision qui concerne un sous-officier, soit une punition, soit un avancement, soit quelque chose d'administratif ou très personnel, il y a le président des sous-officiers. Si ça concerne un militaire du rang, il y a le président des militaires du rang. Ils sont dans l'unité, connaissent les gens, ils connaissent la maison, ils connaissent le régiment. Donc, en fait, leur conseil a une grande valeur. Si je demandais la même chose au président du régiment d'à côté, il pourrait me donner un avis, mais pas un conseil.
Alors en vous écoutant attentivement sur cette question du conseil, des conseillers, je me disais qu'apparaît aussi, alors c'est peut-être lié à la vertu de justice, tout ça c'est quand même profondément humain, c'est-à-dire que ça suppose une connaissance de l'âme humaine, un chef qui écoute ses conseillers, qui écoute les opinions ou les avis. il doit être renseigné sur la personne qui aimait tout cela, sur son tempérament, sur plein de choses. Et donc, quand on évoque la vertu de justice, c'est aussi une vertu qui suppose la relation des êtres les uns avec les autres. Alors, connaissance des êtres humains, ça veut dire empathie. Alors, vous allez me dire qu'on frôle là la foi ou la théologie, mais je me souviens d'un commandant des écoles il y a très longtemps à Couët-Quidan qui disait « On ne commande pas sans amour ». Alors, je sais qu'il y avait certains officiers qui s'étaient émus parce qu'ils considéraient que c'était un mot qui n'avait pas sa place dans la bouche, sur la langue d'un officier général. Parce que tout à l'heure, vous nous disiez que le fil rouge un petit peu de toutes ces vertus, pour vous, c'était le hardiment de Jeanne d'Arc. Mais je me permettrai d'ajouter qu'il y a cette question de l'empathie et de l'amour. Le chef doit se faire une douce obligation d'aimer ses hommes. Alors, peut-être que ma question, elle est peut-être un peu trop intime, mais au long de votre carrière, est-ce que vous avez aimé vos hommes et comment vous les avez aimés ?
Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit.
Non, mais ça m'est venu comme ça et je me suis dit, ces vertus, on peut pas les mettre en œuvre comme peut-être le sous-titre de votre livre le suggérerait, c'est-à-dire les clés de la réussite. Mais on est au-delà parce que on est là dans un domaine où le chef est fait pour aider ceux qui sont autour de lui ou au-dessous de lui à réussir, non pas dans la vie, mais leur vie. Et donc, on est vraiment dans la métaphysique du chef à travers votre livre. C'est ça que je voudrais évoquer avec vous.
J'en conviens, parce que j'avais écrit avec les éditions Sainte-Madeleine, du Barouche d'ailleurs. C'était un abécédaire du chef militaire. Et le premier mot, c'était amour. Et en fait, je faisais allusion à quelque chose qui avait marqué quand j'ai pris le commandement du 2e régiment étranger d'infanterie, c'était en Côte d'Ivoire. Le commandant de l'opération, c'était le général Le Serre, qui avait lui-même commandé le 2e RI j'étais sous ses ordres plusieurs fois. Et il préside une cérémonie de fête régimentaire qui s'appelle une garde, peu importe. Et il fait un discours à la fin sur l'amour. L'amour du chef envers ses hommes, etc., qui a été chaleureusement applaudi par les légionnaires. Donc en fait, les légionnaires, on ne peut pas dire quand même que de temps en temps, ça soit des grands émotifs et des grands sentimentaux. Mais là,
ils les avaient touchés au cœur.
Et d'ailleurs, c'est pour ça, un peu, je pensais à lui. Et quand dans le livre, à un moment, j'ai fait un chapitre détox en disant c'est bien de parler d'efficacité, etc., mais on va finir par s'y perdre là-dedans. Fait un chapitre détox en faisant un petit commentaire, une citation de Saint-Edith Stein, en disant « Tout ce qui est humain est périssable, sauf l'once d'amour qu'on a mis dedans, dans nos actes. »
Oui, vous m'avez rappelé là Gustave Thibon, que vous connaissez certainement mieux que moi, qui disait qu'au fond, tout ce qui n'a pas trait avec l'éternité est sans valeur. C'est-à-dire qu'au fond, tous nos actes ont une dimension d'éternité, et si certains ne l'ont pas, ces actes-là sont destinés d'une certaine façon au néant. Donc on est toujours quand même dans le petit quelque chose en plus dans votre ouvrage.
Et puis, en fait, l'amour, après, si là, vous avez cité des mots, je les ai notés au passage, âme humaine, tempérament, etc. Si on regarde l'âme humaine, on n'est pas des robots, quoi. Donc, l'âme humaine, elle est faite pour quoi ? Elle est faite pour connaître la vérité et pour aimer. Voilà. Donc, la vérité, on pourra revenir plus tard, mais aimer. Donc, en fait, nos soldats, s'ils ne se sentent pas aimés, et si on ne leur donne pas quelque chose à aimer, d'ailleurs, Saint Jean Bosco, qui était un grand éducateur, il disait il faut se faire aimer. Et donc, c'est complètement idiot de se dire il ne faut pas chercher à se faire aimer envers et contre tout, il ne faut pas chercher à plaire, mais se faire aimer, c'est normal. Voilà. Donc, comme l'âme humaine est faite pour aimer, elle est faite pour aimer ce qu'elle fait et aimer les autres, et s'aimer soi-même déjà. C'est un ressort qui est absolument indissociable de toute action de commandement, de management ou autre. Voilà. C'est parce que c'est l'âme humaine. Et c'est la raison pour laquelle sans avoir fait de grandes définitions de l'amour, parce qu'on se sente là-dedans, c'est pareil, c'est compliqué. Et ben, le général Le Serre, en parlant d'amour à ses légionnaires, en disant on aime notre métier, on aime notre pays, on aime nos chefs, on aime nos subordonnés. Non, rien qu'en prononçant le mot, ça faisait son boulot. Le mot lui-même, amour, aimer, aime tes subordonnés, aime ton pays, etc. Ça fait le boulot. Ça parle, ça se greffe dans l'âme. C'est normal, elle est faite pour ça.
Alors, ce quadrige de vertu, vous en faites comme une gerbe et vous le liez avec un acronyme que je vais vous demander de développer. C'est un acronyme qui s'appelle comme ça E, B et F. Alors, il est tout à fait utile dans votre ouvrage parce que c'est un moment du livre où vous reprenez toutes ces vertus, mais d'une certaine façon, vous les transcrivez dans un lexique, avec un vocabulaire qui nous les rend encore plus accessibles et qui leur donne un caractère très pratique. Alors, là aussi, je voudrais vous entendre sur E, B et F.
Bon,
De
déjà,
quoi
je vais vous donner
s'agit-il?
l'origine. De quoi s'agit-il? Je vais vous donner l'origine. En fait, quand je préparais l'école de guerre, j'étais instructeur à Montpellier, à l'école d'infanterie, et j'avais une brigade de lieutenants. Et un jour, des lieutenants me disent, ouais, mon commandant, j'étais commandant, ils me disent, mon commandant, c'est quoi pour vous le style de commandement? Et j'ai sorti comme ça, un peu mécaniquement, en fait. J'avais mis à la place de fidèle, j'avais mis monolithique à un moment, donc j'avais viré. Et il y en a plein que j'ai croisés après qui me disent, au fait, mon général, EBF. Voilà. Donc, E comme exigeant, dans l'ordre. Hein. L'ordre, je vais expliquer l'ordre. B comme bienveillant et F comme fidèle. Voilà. Donc, exigeant, c'est-à-dire, je pense que si aujourd'hui, on voulait donner un conseil, si on me disait, t'as qu'un seul conseil à donner, j'interviens à Coëtquidan, sur les bataillons des officiers, et je leur dis, si vous deviez me dire, donner qu'un seul conseil, je leur dis, soyez exigeants. Je prends moins de risques de leur dire ça que de leur dire aimez vos soldats, etc. Parce qu'il y a plein de choses qui, finalement, ils le savent. Et même si ce n'est pas forcément bien mis en pratique, ça dépend des tempéraments des uns et des autres et des circonstances. Mais bon, le reste, ils le savent. Exigeants, donner des ordres, les contrôler, assumer sa charge. Le chef, il est en ligne de mire. C'est-à-dire tout le monde le regarde. Puis si ça va bien, bah, on le regarde. Si ça va mal, on le regarde aussi, surtout là, à ce moment-là. Voilà, donc c'était une exigence, c'est-à-dire qui passe très concrètement par ce qu'on fait faire aux gens. Voilà. Après, l'exigence, elle pourrait être cassante. C'est-à-dire, en fait, moi, ça m'est arrivé d'avoir des chefs qui étaient exigeants, mais il y avait une façon de faire, on n'avait pas envie de suivre. Du coup, il faut une autre vertu qui va avec, la bienveillance.
Mais on en parle beaucoup aujourd'hui, de la bienveillance.
Oui, mais alors,
Oui.
là, c'est comme l'empathie, quoi. Tiens, qu'est-ce qu'on entend comme truc bizarroïde, pour pas dire d'ânerie, parce que je suis pas compétent pour dire c'est une ânerie, je suis pas psychologue. Mais bon, jamais été convaincu. J'ai assisté une fois à un cours sur l'empathie, c'était des cases à cocher,
Oui, c'est
quoi.
ça. C'est-à-dire qu'on est de l'ordre de la recette, mais on n'y sent pas la finalité profonde.
Voilà. Donc la bienveillance, c'est chercher le bien de quelqu'un sans en attendre de retour. Voilà. Et moi, je trouve ça important pour le chef parce que une personne qui est en situation de responsabilité. Et c'est valable dans le civil que dans le monde militaire. Dans le monde militaire, on perçoit bien du fait de la espèce d'exigence opérationnelle qui va avec les risques qui sont pris. C'est le chef qui met du temps à être accepté par la troupe. Il met du temps. Et donc, il va essayer de faire donner le maximum de ce qu'il sait faire. Et ses soldats ne vont pas forcément lui rendre. Donc, il pourrait prendre ça comme de l'ingratitude.
Vous avez
Et
vécu,
ça ne l'est pas, c'est normal.
ça,
Ah oui.
ce
Ah bah
décalage
la
dans
Légion,
le temps
Ah oui, moi j'ai eu une
entre la
section très
prise
dure en
d'un
Légion.
commandement et puis le retour de vos légionnaires. Ah, je ne vous entends plus là.
Oui, comme lieutenant. C'est-à-dire quand moi je suis arrivé dans une section très dure. Vous me recevez?
Je vous reçois.
Oui, Philippe?
Oui, je vous reçois là.
Oui. Donc. J'ai eu une section très dure en arrivant à la Légion. Je suis parti au Tchad tout de suite avec. C'était là, c'était. J'ai bien mis 6 mois avant de comprendre, d'une part, qu'il fallait du temps et d'autre part, à être accepté. Donc, c'est pour ça que je dis cette bienveillance, c'est là, faire le bien sans en accepter de retour, ça me paraît essentiel. Mais concrètement, ça va s'exprimer comment? Ça va s'exprimer dans le tact, dans la façon de parler. Ça nécessite du travail sur soi, hein, dans le tact, dans la façon de parler, dans la façon de faire une observation, dans la façon d'apprécier un travail. C'est-à-dire, ça s'appelle la modération dans les attitudes, la modération dans les propos, y compris la retenue. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a parlé un peu de connaître ces hommes pour les aimer, les connaître et comprendre au fond d'eux-mêmes, c'est-à-dire dans leurs yeux, d'être capable de voir un signe de joie ou un signe de détresse, qui est
Mais
encore
alors, quand
mieux.
vous avez plusieurs nationalités dans un groupe entre 30 et 40 hommes, est-ce que ce retour par rapport à la bienveillance que vous leur donnez, est-ce il se manifeste différemment selon les nationalités que vous aviez sous vos ordres?
Non.
Non.
Non. Une fois qu'ils adhèrent, ça se voit tout de suite, quelle que soit la. Ils ont peut-être des mots à eux. Hein, mais non. Quand ils adhèrent. D'ailleurs, on revient sur la notion du cœur. Quand ils adhèrent, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils se disent oui, mon lieutenant, ou oui, mon capitaine, j'accepte de mettre à votre service mes bras, mon intelligence et mon cœur.
Donc, exigence, bienveillance, on est dans les deux,
Voilà.
on a
Donc,
vu
plus
les
de
deux premières
bienveillance, c'est
parties
dans
de
la façon
l'acronyme,
d'être.
et
Ça va,
donc
et donc,
voilà, la troisième partie.
l'exigence va rendre la bienveillance
Voilà.
aimable. La bienveillance va rendre l'exigence aimable.
Et le F de EBF de vos...
Alors, le F, c'est fidélité.
Parce que
Donc,
là, pour certains, on va se dire, oh là là, on est dans le féodal, dans une relation complètement asymétrique. Il faut peut-être là revenir sur l'étymologie de fidélité, parce qu'il y a beaucoup de noblesse dans la fidélité. Mais on est dans une époque où on aura du mal à comprendre ça.
Ouais, je ne sais pas si on peut classer ça dans le féodal ou autre.
Non,
D'ailleurs,
mais je
pour
me
être
mets
très
dans
honnête
la
avec vous,
peau
je m'en contrefiche un peu.
de beaucoup de nos contemporains. Je me faisais l'avocat du diable.
Oui, non mais d'accord. Mais en fait, l'exigence, quand on est exigeant, l'exigence, elle est bilatérale. Hein. C'est-à-dire, en fait, c'est pas, tout est bilatéral. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez prononcé le mot relation. Je fais une petite digression par le mot relation. En fait, on n'est que des êtres de relation. C'est-à-dire, en fait, ce qui fait dire, d'ailleurs, à Sainte Catherine de Sienne, c'est très intéressant ça, les dialogues de Sainte Catherine de Sienne, ce qui lui fait dire que, en fait, la source de la grâce et la source de ce qu'on fait de bien et la source de ce qu'on fait de mal se trouve pas seulement chez soi, mais chez l'autre. Voilà. Donc ça veut dire que si je m'élève, j'élève les autres avec, et si je m'abaisse, j'abaisse les autres avec. Donc on est vraiment on est des êtres de relation, quelle que soit la relation de commandement, c'est-à-dire même si c'est hiérarchique. On est aide de relation.
Eh bien, c'est sur
Donc,
ce constat,
ça va dans les deux sens.
voilà, je vous interromps 2 secondes. Je n'imaginais pas que, à mi-parcours de notre émission, on allait jusqu'à évoquer Catherine de Sienne et ses remarquables dialogues. Mais on va observer une toute petite pause pour un petit bobino, et on reprend d'ici 1 minute.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de la Défense et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le général Pierre Gillet, auteur aux éditions du Cerf, d'un ouvrage tout à fait remarquable, intéressant et utile, les forces morales ou les clés de la réussite. Et nous étions à ce moment de l'émission où Pierre Gillet nous expliquait comment, sous le triptyque de l'exigence, de la bienveillance et de la fidélité, il avait d'une certaine façon lié ces vertus cardinales qui sont les fondements, au fond, de toute action humaine ici-bas. Alors, progressons dans notre émission, parce que dans votre ouvrage, vous évoquez aussi l'intelligence de situation. Et là aussi, ça m'a beaucoup intéressé, parce que tout au long de mon existence, je me suis souvent interrogé sur cette intelligence de situation, parce que j'ai vraiment pu observer des gens qui, soit de façon innée, soit de façon acquise, soit en combinant les deux, étaient capables de saisir le moment, de savoir exactement ce qui était en jeu dans des circonstances données. Et donc, compte tenu de votre expérience, de votre longue expérience, de vos enseignements et puis de la vie que vous menez actuellement, de vos réflexions historiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire de l'intelligence de situation? Parce qu'on voit bien dans l'histoire en général et dans l'histoire militaire en particulier que les grands chefs ont réussi ou échoué parce qu'à un moment donné, dans l'histoire de la bataille ou de la conduite des opérations, eh bien, ils sentent ou ils sentent pas ce qui est en jeu et tous les ordres et les décisions qu'ils vont prendre découlent de cette perception pertinente ou non de ce qui est en train de se passer. Alors vraiment, là-dessus, j'aimerais aussi vous entendre. L'intelligence de situation, comprendre ce qui se passe. Et comment on met ça en regard avec ses vertus.
Je vais dire en un mot, fidélité. Oui, donc je conclue juste sur la fidélité.
Allez-y.
On l'a zappé.
Oui.
Et là, bon,
pas complètement, mais voilà.
Donc, la fidélité, c'est pas...
Allez-y
c'est,
sur
c'est
la...
pas que la parole donnée.
Oui.
C'est pas que le respect de la parole donnée, c'est aussi cette capacité, on parlait tout à l'heure de la grandeur d'âme, cette capacité d'en faire un peu plus. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle boucle le BF, exigeant, bienveillant.
C'est-à-dire que vous, dans votre carrière, vous avez vu comment la fidélité, au sens étymologique, était sanctionnée, parce que vos subordonnés, ils vous donnent le petit quelque chose en plus qui illustre vraiment ce que c'est que la fidélité, c'est-à-dire qu'on se donne complètement et on ne reste pas dans une espèce de réserve ou d'indifférence vis-à-vis du chef. Il y a quelque chose, j'allais dire, de magique, mais c'est pas appliqué à votre ouvrage, mais il y a quelque chose de métaphysique dans la fidélité, de la relation entre deux êtres. C'est je te donne tout parce que tu es mon chef, mais que tu es un bon chef. Il y a quelque chose de ça.
Oui, ben c'est exactement pour ça que sur les drapeaux des régiments de Légion, il y a marqué honneur, fidélité et non pas honneur, patrie. Oui. Il n'y a pas que le fait que ce soit des. Ils ne sont pas français d'origine, quoi. Mais c'est honneur, fidélité. Et ce que vous venez de dire, et je vais faire l'apologie de la Légion une seconde, on me pardonnera.
Non, non, mais allez-y. La parole est libre sur Radio Courtoisie.
C'est ce qui fait la grande force des régiments de Légion. Oui. C'est que il y a beaucoup d'étrangers. Et quand ils se donnent pas à moitié. Et voilà, beaucoup nous disent je sais ce que je dois à la France, etc. Donc il y a un amour du chef. D'ailleurs, c'est un chant de la Légion. Hein, l'amour du chef, l'obéissance, que sont de plus pures traditions. Je cite le chant. Voilà. Donc je pense que c'est très vrai. Si vous voulez, je reviens sur l'intelligence de situation.
Oui, j'y tiens beaucoup.
Voilà.
Donc, parce que je pense qu'au-delà de la question, enfin, de votre expérience militaire, nous avons tous besoin d'être intelligents en matière de situation. Surtout à l'époque où l'on est, où on succombe à un tas d'informations, eh bien, moi, je constate qu'il est difficile de comprendre ce qui se passe. Et votre ouvrage peut nous y aider en cultivant. J'y reviens, en cultivant ces vertus qui nous permettent de comprendre où on en est et ce qu'on peut faire. Voilà.
Alors, la première chose, c'est pour répondre clairement à la question, il y a l'étymologie,
oui,
dans un premier temps.
Très importante.
Ça veut dire lire à l'intérieur. Donc, en fait, l'intelligence de la situation, c'est lire à l'intérieur des événements. Ça, c'est la première chose, l'étymologie, lire à l'intérieur. Bon, il faut l'avoir en tête. Après, j'ai fait un chapitre où il y a marqué un chef trois fois plus intelligent.
Oui.
L'intelligence de situation, l'intelligence de cœur,
oui.
L'intelligence de métier. Donc, l'intelligence de métier, c'était lire à l'intérieur de la matière. L'intelligence de situation, c'était lire à l'intérieur des événements. Et l'intelligence de cœur, c'était lire à l'intérieur des cœurs. Ouais. Ça me paraît peut-être la plus importante. Mais revenons sur l'intelligence de situation. Donc, je pense que l'intelligence de situation... C'est se positionner clairement dans le temps et dans l'espace et par rapport aux événements. Je m'explique. La plupart du temps, on a une idée du temps qui est linéaire, le chronos, avec des échéances, etc. Et ce qu'on voit moins bien, c'est le kairos, c'est-à-dire les événements, soit des opportunités à saisir, soit des coups à prendre. Voilà. Et donc, l'intelligence de situation, c'est cette espèce de petit radar qui est au fond de nous-mêmes et qui nous fait saisir les kairos, c'est-à-dire les coups à prendre ou les opportunités à saisir. Voilà. Et c'est fondé sur un grand sens du réel. Donc, si je, Sur le sens du réel, vous allez me dire, c'est facile à dire, mais pas facile forcément à acquérir. Il y a deux choses à avoir en tête, à mon sens. C'est la première, ça se développe en allant sur le terrain. Et là, parfois, on entend des gens, ouais, j'étais sur le terrain, etc. On entend des politiques ou certaines autorités dire ça, mais j'étais sur le terrain.
Oui,
C'est
ils
pas en
vont
restant
souvent sur le
5 minutes.
terrain et ils prennent leurs responsabilités.
Voilà. Non, mais quand c'est pas en étant sur le terrain 5 minutes qu'on acquiert le coup d'œil, quoi. Il faut être sur le terrain et il faut rester, quoi, sur le terrain. Il faut y passer du temps, il faut passer des nuits, partager des repas, partager avoir froid, avoir faim, avoir être trempé, avoir mal aux pieds, etc. Ça, c'est être sur le terrain. Voilà. Donc, on va acquérir cette intelligence de situation. C'est-à-dire, ça va rentrer par les pieds, par la chair de poule, par le contact physique des gens qui, dans leur vision, vont se dire, oula, ils n'ont pas l'air très d'accord avec ce que j'ai dit, etc. C'est au contact. Il n'y a pas d'autres possibilités. Et la deuxième chose importante, c'est, vous voyez, dans le sens du réel, un état-major, ça va résonner d'une manière inductive, déductive et abductive. Je m'explique. Et l'intelligence de situation, elle passe par ces trois raisonnements, c'est-à-dire pratiquer d'une manière libre. Déductif, on a des principes, on va déduire comment je vais agir. Inductif, je vois ce qui se passe sur le terrain et j'en déduis et j'en induis comment je vais agir. C'est-à-dire, je vais le synthétiser tout ça et je vais dire, voilà comment on va faire. Et abductif, c'est-à-dire, c'est le renseignement. C'est-à-dire, en fait, l'ennemi a toujours fait comme ça, dans telles conditions. Je vais m'en assurer, mais normalement, il devrait continuer à faire de la même manière. Ou alors, il y a un changement et il va changer. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, l'intelligence de situation, c'est une espèce d'agilité intellectuelle qu'on acquiert sur le terrain. Et qui nous permet de manier les trois raisonnements humains, c'est-à-dire la déduction, l'induction et l'abduction. Et si on voulait aller plus loin, on se rend compte qu'aujourd'hui, certaines de nos élites sont purement déductives, font semblant d'être sur le terrain. Ils ne pourront pas être inductifs parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Et bon, je ne veux pas prendre des cas trop récents, mais le Covid, c'est-à-dire à partir du moment où on interdit à des médecins de soigner et qu'on leur dit voilà comment vous faites. On se prive de l'induction, on est dans la déduction et on voit ce que ça a donné.
Et si je prends, j'abandonne provisoirement le terrain de la médecine, quand on évoque les grands principes et Foch, et les grands principes de la guerre, l'économie de moyens, la liberté de manœuvre, concentration, etc. Est-ce que vous avez eu, toujours dans votre carrière, des exemples concrets comme ça de déduction à partir des grands principes que vous aviez appris sur les bancs des grandes écoles et que vous avez déduit peut-être en Centrafrique ou ailleurs une application, vous en avez déduit une application très très concrète.
En fait, je ne suis pas forcément le bon exemple parce que moi, j'ai passé l'école de guerre sans aide-mémoire. J'avais juste les documents techniques. Parce que ça m'insupportait d'avoir plein de schémas. Donc, il y en
Donc
a.
vous étiez déjà un esprit libre.
Je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on n'a pas. Quand on raisonne, on ne raisonne pas en disant bon, alors là, j'ai coché la liberté d'action, là, j'ai coché la conscience des efforts, là, j'ai coché l'économie des forces. Je pense que le point clé, c'est comme je disais tout à l'heure sur la prudence, le point clé, c'est connaître pour comprendre. Voilà. C'est-à-dire, en fait, il faut essayer de savoir qu'est-ce qui se passe et connaître pour comprendre, ça va se prendre par les deux bouts. C'est-à-dire, à la fois, qu'est-ce qu'on constate sur le terrain et à la fois, qu'est-ce que nous dit l'histoire. Par exemple, comprendre une action d'Afghanistan dans une haute vallée. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Qui j'ai en face? Des Pachtounes, des Tadjiks, etc. Et quelle est leur vision de l'islam? Et là, il y a différentes écoles. Donc, il faut avoir à la fois cette connaissance des différents de l'islam et pas de manière théorique, de manière assez précise sur les différentes écoles, parce qu'ils ne vont pas apprécier le djihad de la même manière ou la
Et
coopération
donc
nous
pas
de
peut-être
la
pas
même
la même
manière.
façon de faire la guerre en fonction des écoles à
Voilà.
laquelle ils se rattachent.
Donc là, on va déduire un certain nombre de choses. Et la vision pratique du terrain, c'est-à-dire on va être tout le temps, on va aller sur le terrain. On va comprendre d'autres choses et on va mettre les relations deux. On va mettre les deux en relation. Et donc, pour moi, c'est ça ce qu'on pourrait peut-être appeler l'esprit systémique. Je disais pour plaisanter, on devrait sélectionner les chefs et les grands dirigeants sur leur esprit systémique. S'ils sont que déductifs, c'est dangereux, carrément dangereux. S'ils sont inductifs, je pense que ça l'est moins, mais ils se privent quand même de la science des autres.
Alors, on dit souvent que ça soit pour les hauts responsables militaires ou les responsables civils que les types de carrière, les différentes modalités de la carrière éloignent petit à petit des réalités de terrain. Alors, dans mon introduction, je soulignais que vous aviez connu les opérations extérieures de lieutenant à officier général, mais néanmoins. Est-ce qu'il faut faire un effort pour rester quand même à la fois proche du terrain et puis vouloir y aller? Parce que j'imagine, enfin je peux quand même l'observer, qu'au fur et à mesure que l'on monte dans les échelons, eh bien c'est non pas une paresse intellectuelle qui s'installe, mais qu'au fond, l'éloignement naturel avec le terrain fait de plus en plus des chefs qui sont déductifs plus que inductifs. Alors comment fait-on? Et est-ce que pour vous, ça a été difficile d'échapper à ce phénomène qui marque quand même beaucoup de gens? C'était naturel ou il a fallu lutter?
Si j'étais un peu perfide, je dirais
Mais
déjà,
allez-y, hein, vous pouvez l'être.
il faudrait commencer par y être allé un jour sur le terrain et pas avoir fait semblant. C'est, je pense, une grande force dans les armées de pouvoir justement commencer comme lieutenant en être général. Ouais. Et après, je pense que la deuxième, pour répondre à votre question, c'est une question de goût. Voilà. C'est en fait, il y en a qui ont le goût de la vie au grand air, d'aller voir comment ça se passe sur le terrain. Il y a beaucoup de chefs, par exemple, vous voyez, dans l'histoire, des gens comme Leclerc, pour prendre Rommel, prendre nos adversaires, ils étaient au contact sur le terrain, quoi, complètement devant les troupes, parfois même. Donc, Napoléon, champ de bataille. Donc, il n'y a pas de coup d'œil si on n'est pas sur le terrain. Donc, il y a une question de goût. Après, il y a des responsabilités qui font qu'on va être de plus en plus fixé sur des réunions ou derrière un ordinateur. Mais je pense très honnêtement que c'est un alibi et pas une réalité. Si on n'est pas obligé d'être fixé. Si on veut aller sur le terrain, c'est que je revendique pour les chefs
Que c'est
que s'ils veulent
possible.
aller sur le terrain, c'est juste une question de goût et d'organisation. C'est pas une... Et si on reste dans son bureau et qu'on a plein de réunions, machin, c'est qu'on le veut bien. Et d'ailleurs, on peut se poser la question en disant, toutes les réunions, tous les sommets, les comités, les échanges qu'on a faits, qu'est-ce qui concrètement on en a
Qu'est-ce qu'il en
retenu? Voilà.
reste?
Et à part, voilà, qu'est-ce qu'il en reste? À part quand même ce côté communication, le relation avec les autres qui nous permet de les connaître mieux. Ça c'est, si on va jamais au contact, on les connaîtra pas. Mais voilà. Et sur le terrain physique, moi, à mon avis, rien n'empêche d'y aller. C'est qu'une question de goût. Et à certains niveaux, c'est quand même aussi une question de devoir.
Et quand vous discutez, vous êtes en relation avec des chefs d'entreprise, avec des personnalités du monde de l'économie, est-ce qu'ils font ce même constat, cette espèce de diptyque entre les chefs déductifs, les chefs inductifs, la nécessité de rester proche du terrain? Est-ce que ce sont des problématiques identiques, qu'on soit sous l'uniforme ou en civil?
Je par discrétion, je ne citerai pas les patrons, mais il y en a au moins un que j'ai en tête qui, lui, est complètement en phase avec ça. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui était directeur de la sécurité d'un grand groupe m'a fait cette remarque en disant on est trop déductif et pas assez inductif. Donc, bon, ça mène l'eau au moulin. En fait, il y a une fois, quelqu'un m'a posé me dit, bon, là, on a une difficulté dans la boîte les gens ne se parlent pas entre eux. Donc, j'ai posé juste la question sur le contact en disant, j'ai deux questions. La première, c'est quand est-ce que vous avez déjeuné avec vos directeurs pour la dernière fois? Réponse, jamais. La deuxième, quand est-ce que vous allez dans les ateliers? Réponse, rarement. Voilà, bah, faut chercher plus loin le fait qu'ils ne se comprennent pas entre eux. Hein.
Alors, je vous interromps pour une question, une observation d'une auditrice, d'ailleurs, qui est une auditrice fidèle de la région de Limoges. Et alors, je vous transmets une question qui a un caractère un peu intime. Elle dit, est-ce qu'on peut être croyant en étant militaire? Jeanne est, virgule, certes la référence, mais à notre époque, point de suspension, quatre points d'interrogation.
Ouais, j'ai une petite idée de ce qu'elle a en tête.
Ben oui, mais moi peut-être aussi, mais je préfère vous la laisser méditer et répondre.
Ouais, merci, je remercie cette auditrice de sa question. Yann, sur le plan personnel, d'ailleurs, dans le centurion de Capharnaüm, le Christ lui a dit « Tu dois déposer tes armes ». Change de métier. Il n'a pas dit ça.
Se contenter de sa solde et
pas.
Puis faire son métier.
Vous me recevez, non ?
Là, ça crache un petit peu.
Ouais,
là.
Voilà, il lui a. Et là, c'est mieux ?
Là, c'est mieux, oui.
Vous me recevez ?
Là, je vous reçois et nous parlions du centurion de Capharnaüm pour répondre à cette auditrice.
Voilà, il lui a pas dit changer de métier, quoi. Donc, en fait, si on avait un métier, entre guillemets. Qu'il fallait maudit, et ben, la question se poserait totalement différemment. Maintenant, je pense que derrière sa question, il y avait une certaine. Elle voulait poser la question de la compromission, peut-être, en disant. Plus
oui,
on
parce monte... que c'est toujours une question que l'on se pose et puis qu'on pourra reprendre pour notre dernière partie d'émission à propos de la finalité de ces vertus morales dans un monde et dans un univers, y compris au niveau des institutions, qui est marqué par le relativisme et l'indifférentisme. Voilà la question que se posent certains, c'est est-ce qu'on peut arriver au sommet de la hiérarchie sans perdre son âme ? En fait, c'est ça. C'est ça la question.
Moi, je pense que oui. D'abord, je ne jugerai pas les chefs actuels, parce qu'il y en a certains que je connais, d'autres que je ne connais pas. Je connaissais bien le général Burkhard, ancien chef d'état-major des armées, parce qu'on est de la même promotion de Saint-Cyr et on a commandé la Légion ensemble. Et je peux témoigner haut et fort qu'il n'a pas vendu son âme au diable. Voilà. Après, quand on monte en responsabilité, c'est sûr qu'on peut être co-responsable de certaines décisions qui ne sont pas forcément les nôtres et qu'on n'a pas forcément voulu, qu'on a certainement contrebattu et dont, entre guillemets, on est co-héritier. Alors, vous allez me dire, tant que ce n'est pas totalement immoral, il n'y a pas vraiment de raison de se démettre. Voilà. Je pense que c'est très difficile parce que c'est complètement circonstancié. La question de cette dame, je vois très bien ce qu'elle a en tête, mais moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir recevoir un ordre dont je me dis moralement, c'est inacceptable. Ça m'est arrivé de m'opposer au représentant spécial des Nations Unies, par exemple, à Sangaris, pendant l'opération Sangaris, en disant c'est complètement aberrant, c'est-à-dire ce que vous me demandez de faire est aberrant, contrevient à mes ordres à moi, et de toute façon est un contresens stratégique et tactique, en disant donc aucun sang ne coulera ni le soldat français ni de rebelles pour une ânerie stratégique. Voilà, donc je le dis assez simplement, quoi. Et ben, là, ce qui est de la responsabilité du chef, mais. D'être entre guillemets co-héritier de certaines décisions qu'on n'a pas prises, c'est un sujet de fond, c'est-à-dire jusqu'où. Et là, je renvoie dans la citadelle de Lille, là, il y a une flamme de commandement qui est une flamme rouge qui avec trois bandes blanches verticales. Et l'origine de cette flamme, c'est le Saint-Maurice, donc le patron de l'infanterie. Pas que française, les Allemands ont le même patron pour l'infanterie. Saint-Maurice, qui est la légion thébaine qui s'est sacrifiée dans la plaine d'Agone. Donc, eux qui ont été décimés dans la plaine d'Agone, je ne sais plus l'empereur, je vais dire Maximilien, je crois, il me semble. Et donc, la question de Saint-Maurice, c'était la question des triples fidélités, voyez, d'où les trois bandes blanches. Donc, le fanion rouge, c'était le sang des martyrs, et trois bandes blanches et trois grandes fidélités. Donc la première fidélité, la plus haute, c'est la fidélité à Dieu. La deuxième, la fidélité à son pays. Et la troisième, la fidélité à ses subordonnés et les subordonnés envers leur chef. Voilà. Et je pense que la question derrière, si je tire un peu vers le haut, et pour pas rentrer dans des considérations trop politiques sur la question de cette auditrice, c'est de se dire, en fait, il y a toujours une question de fidélité sous-jacente. Alors, et Saint-Maurice, qui est vraiment très, très illustratif, et d'ailleurs la pièce d'Henri Guéon qui le... mais bien en valeur, va être réédité par les éditions Sainte-Madeleine. Là. Donc, je fais un peu de pub pour eux, au passage.
Ouais, vous avez raison, c'est une excellente maison d'édition.
Voilà, donc elle met en dit, Saint-Maurice dit, non, nous, on sacrifiera pas l'empereur parce que on est une légion chrétienne et on a juré fidélité au Christ. Donc, on accepte, donc l'empereur dit, bah, il faudra accepter d'être décimé. Donc, ils disent, bah, comme on a juré fidélité à l'empereur aussi, eh ben, on acceptera la décimation. Et quand Saint-Maurice rassemble les vétérans et les légionnaires de ça, il leur dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? La plupart disent, bah, nous, on fera comme nos chefs en décidant, les suivra, y compris dans l'au-delà. Voilà. Donc, ça montre bien que c'est qu'une question de fidélité. Donc, il arrive à un moment, il faut être fidèle à ce qui est sacré et faire attention à ce qui est essentiel et un peu moins à ce qui est important.
Alors, comme j'ai senti aussi dans votre ouvrage que vous aviez une certaine proximité avec Saint-Exupéry, et pour un peu aller un peu dans la suite de la question de notre auditrice, vous citez Saint-Ex à propos de l'exploit de Guillaumet dans les Andes, qui est relaté dans Terre des Hommes, et Saint-Ex dit: être homme, c'est précisément être responsable, c'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. Alors, si je vous comprends bien, malgré les difficultés que peuvent poser la question du relation du militaire et du politique, des finalités des uns et des autres, vous, au long de vos presque 40 ans de carrière, est-ce que vous pensez avoir contribué à bâtir le monde?
Vous connaissez un autre texte, il y a Saint-Exupéry, bien sûr.
Ah oui, vous allez me renvoyer une citation, là. Oui.
Oui, non, mais c'est une
Et...
citation que
Oui,
j'assume
non, parce
complètement.
que c'est une belle citation et qui renvoie à l'expérience de beaucoup de gens, quel que soit leur niveau. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que on peut poser pour des gens qui ont eu des hautes responsabilités à la jointure du politique et du militaire, parce qu'au fond, il y va de la vie et de la mort des gens.
Oui, alors là, en fait, il y a plusieurs niveaux, mais
Oui.
je pense que là, vous voyez, il y a un livre intéressant, c'est un livre qui a été fait par une conférence, après une conférence, c'est l'amiral McRaven. Bon, c'est un truc qui dit, si tu veux, si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit. Et dans sa conférence, il explique que, en fait, si une personne devenait meilleure, il y en a 10 qui vont être en contact avec elle, qui vont devenir, ces 10 vont aussi être
Le
meilleurs par
bien
ta
est
carité.
diffusif.
Et puis voilà, et le bien est diffusif de soi, d'ailleurs, dit saint Thomas d'Aquin. Donc en fait, et puis qui vont elles-mêmes être, entre guillemets, vont au contact de 10, et ainsi de suite. Et il dit qu'au bout d'une génération, on aura, je dis n'importe quoi, mais il y a 1 million de personnes qui auront été changées. Voilà. Donc moi, je reviens à cette notion-là. Peu importe le sommet de l'État. Vous devinerez ce que j'en pense. Mais peu importe le sommet de l'État, à partir du moment où on cherche à faire vraiment le bien autour de soi, moi, je suis persuadé que ce qu'on nous demande, c'est témoigner de la vérité autour de nous. C'est-à-dire, moi, quand on me disait un truc qui était, même si c'était idéologique, politique, etc., je dis non, je ne suis pas d'accord, parce que ce n'était pas vrai. Voilà. Donc, témoigner de la vérité, et parfois, ça peut en surprendre quelqu'un, même si toute vérité n'est pas bonne à lire. Quand on nous demande de témoigner de la vérité, bah, ne nous gênons pas. Et deuxièmement, essayer de faire le bien. Bon, soi-même, pour soi-même, parce qu'il y a l'exemplarité. Et deuxièmement, dans les propos qu'on tient, dans la formation qu'on donne à nos jeunes. Moi, je m'investis, par exemple, sur la formation de jeunes, parce que je pense que une goutte d'eau, même si on dit, ouais, c'est le désert, même si on dit, ouais, ils sont un peu déstructurés, etc., peut-être, mais une goutte d'eau dans le désert, ça fait fleurir quelque chose. Il y a un pouce. Si chacun met une goutte d'eau, on va finir par faire une pelouse. Donc, il ne faut pas abdiquer, voilà, hardiment.
Et c'est presque 40 ans de carrière militaire. Est-ce que vous les considérez en fait comme une espèce de fin en soi, ou si au fond tout ça ne vous a pas été donné pour lier votre expérience et pour pouvoir la transmettre et finalement pour investir pour les 50 ans les 50 ans à venir? Si vous mettez en perspective votre existence, parce que quand on sort de votre livre, enfin moi, comme lecteur, c'est un peu le sentiment que j'ai. Je me suis dit, mais finalement, pendant 37 ou 38 ans, il a ramassé de l'expérience, et le moment peut-être le plus exaltant au sens plus profond du mot, c'est peut-être maintenant.
Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous parce qu'il y en a, il y en a,
tout ça mûri, matiné par l'expérience, quoi. Les mots ont beaucoup plus de portée aujourd'hui dans l'existence que vous avez que ce qu'ils avaient peut-être il y a 20 ou 30 ans. C'est l'impression que j'ai eue dans votre ouvrage.
Oui, que les auditeurs me pardonnent s'ils trouvent ça prétentieux, mais ce qui n'est pas le but, c'est là, en fait, c'est pas dans la transmettre, on se dit, il est qui, lui, pour transmettre, mais il y a j'y crois vraiment dans le sens où pendant 37 ans, en fait, finalement, on reçoit et on échange, on va dire, on reçoit de nos soldats, on reçoit de la vie, le caractère se forge par les événements, etc. Et puis après, quand on est à la retraite, on se dit, on a un peu de temps. Évidemment, on n'est pas vraiment à la retraite, quoi, en fait. On a un peu de temps pour sédimenter tout ça, pour le filtrer à travers des lectures que j'aurais pas eu avant, Saint-Thomas d'Aquin et Aristote. C'est plus récité, les ratios les plus jeunes, j'ai mis du temps avant de les lire. Voilà. Donc, et d'un seul coup, on se dit, mince, il y a des choses, si je les avais su sur le domaine, sur le plan pratique, qu'est-ce que ça m'aurait servi? Voilà. Et donc, c'est un peu l'idée du livre aussi. C'est de se dire, ce serait quand même dommage qu'on le voit que sous l'angle intellectuel, on parle de vertu, on se dit c'est encore un truc intellectuel. On parle d'Aristote, on se dit c'est encore un truc intellectuel. Alors c'est éminemment pratique puisque c'est l'acte humain. C'est en fait ce qu'on fait tous les jours.
Alors vous aviez tout à l'heure parlé du Covid et puis vous avez dans votre livre une métaphore de nature biologique, hein, médicale. Vous voulez faire partager où on dit de vous, hein, vous faites partager ces fortes convictions, une cure de vitamines pour booster nos défenses immunitaires dans l'adversité. Et je crois qu'on est dans un temps où cette phrase-là, elle a tout à fait son importance et elle peut être comprise par beaucoup. Hein. Cure de vitamines pour booster nos défenses immunitaires, dans l'adversité.
J'en suis. Alors là, c'était ouais. Complètement.
Et vos étudiants, comment vos étudiants prennent ce type de phrase? Est-ce qu'ils ont conscience que leurs défenses immunitaires peuvent être un petit peu abîmées, que les lymphocytes ne sont pas en nombre comme on le supposerait? Ils se perçoivent en déficit immunitaire?
Il faut leur poser la question à eux, mais en fait, on part de loin et avec certains, mais on se rend compte qu'en fait, ils y sont sensibles. Et moi, je constate que les courses, à la fin, ils sont tous les retours qu'ils m'en font. Hein. Je dis ça simplement, mais ils sont hyper contents, en fait, parce que c'est la première fois qu'on leur parle de ces choses-là. Et la dernière fois que je suis allé à l'Institut d'administration des entreprises d'Aix, j'ai conclu le cours en disant, vous voyez, à travers tout ce que je vous ai dit, mon objectif, c'est de faire de vous les acteurs de votre vie et non pas simplement les spectateurs. Bon, là, ça les a fait applaudir. Bon, j'ai rassemblé tout dans une parole, mais en disant, on subit. Une question que je pose souvent aux étudiants et même dans des entreprises quand j'interviens, c'est de dire, est-ce que vous croyez être aussi libre que vous le pensez? Donc là, ils sentent que la question est piégée. Donc, je fais un petit détour par tout ce qu'on était capable de faire en opération en termes d'opération d'influence. Là, je ferme cette parenthèse. Et j'ai dit, on n'est pas libre aujourd'hui. Entre les informations, on est des électeurs potentiels, on est des acheteurs potentiels.
Des contribuables.
On est des contribuables. Donc en fait, tout le monde nous siphonne notre cerveau, notre porte-monnaie, notre énergie de tous les côtés. Donc en fait, si on veut résister à bon escient, déjà il faut le supporter, qui est la première brique. Et après, il faut être capable de réagir. Et on n'est pas obligé d'accepter tout et n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, je pense, c'était un peu ça que j'avais en disant, aujourd'hui, arrêtons de subir, arrêtons d'être que des électeurs dociles, des contribuables dociles et des acheteurs compulsifs. Arrêtons. Et du coup, le remettre en relation avec cette notion très aristotélicienne et chrétienne, en disant on est fait pour aimer, on est fait pour le bonheur. Ce bonheur sera parfait qu'en Dieu, mais sur Terre, il est possible, mais à condition, finalement, de ne pas mettre son bonheur que dans son ventre, dans ce qui est un peu plus bas que le ventre, et dans ses richesses.
Et ça, ça passe.
Ça, ça passe.
Alors, est-ce que
vous... C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter.
Oui.
Et je pense que un des mots de notre temps, c'est qu'en fait, les pédagogues et ceux qui sont au contact, Ils ont peur, en fait, en disant, oh là, comment ça va être reçu? Il ne s'agit pas de juger ou de faire du politiquement correct ou incorrect, on s'en fiche. Et allons-y hardiment, comme dirait Jeanne d'Arc, ça passe.
Et est-ce que vous liez ça, est-ce que vous arrivez à faire une ouverture avec vos étudiants, avec ce que vous évoquez au milieu de votre livre, à propos du courage en acte dans la vie de tous les jours, c'est la nécessité de la vie intérieure. Vous dites, la prise de recul et la respiration de l'âme apportent une vitalité unique dont il faut faire l'expérience pour en être totalement convaincu. Et vous allez plus loin, alors en citant Jean Anouilh dans l'Alouette, « Dieu ne demande rien d'extraordinaire aux hommes, seulement d'avoir confiance dans cette petite part d'eux-mêmes qui est lui. » Alors, est-ce que dans l'enseignement avec vos étudiants, alors peut-être pas en cours, mais dans les après-cours qui sont parfois aussi ou plus importants que le cours lui-même, est-ce que cette question de la vie intérieure qui a été soulevée il y a longtemps par Bernanos revient? Parce que pour mettre en œuvre tout ce que vous évoquez dans votre livre, effectivement, il faut revenir à cette petite part de l'âme avec laquelle on doit entretenir un dialogue fréquent, sans lequel on est soumis à toutes les tempêtes du monde. Est-ce que oui. Vous en arrivez à ça aussi, en disant oui. Au fond, et votre vie intérieure?
Oui, ça. Alors après, je le fais de manière très délicate pour pas.
Oui.
Parce qu'il y a quand même, c'est normal de respecter la liberté de conscience des gens.
Bien sûr. Oui.
Je le suggère et je leur dis, ceux qui s'intéressent viennent me voir en privé, on en parlera entre nous. À chaque fois, il y en a qui viennent. Voilà. Et une fois avec une entreprise, en faisant une conférence, je pense, sur les vertus, en parlant de la vie intérieure, le patron m'a dit après, il m'a dit, ouf, il m'a dit, quand tu es parti là-dedans, il me dit, je me suis demandé comment les gens venant de toute obédience, etc., vont le recevoir. Et il m'a dit, bah, tout le monde a adhéré.
Oui, parce
après,
que oui.
ils l'ont pas forcément suivi, mais ils voient bien qu'il y a une espèce de part en soi, qui est une espèce de soif en soi, qui réclame d'être nourri par autre chose, par les aliments du monde courant. Voilà, il a besoin d'être nourri par quelque chose d'autre, de supérieur. Donc parfois les gens y mettent d'autres spiritualités, mais je pense qu'ils seront vite sur leur faim. Et c'est la raison pour laquelle après moi j'assume de dire que c'est Dieu lui-même.
Alors, comme je sais que vous êtes proche des bénédictins, j'ai repris la lecture. Il n'était pas bénédictin, mais c'est Saint Bernard. Et dans son traité de la considération qu'il adresse à un de ses fils élevé au trône de Saint-Pierre, hein, dans le traité de la considération, il incitait vraiment son interlocuteur à méditer sur qui vous êtes, ce que vous êtes, quel vous êtes. Et si j'avais un tout petit conseil à vous donner, c'est de lire ou relire une partie du traité de la considération de Saint Bernard qui justement incite les gens à se demander qui ils sont. Et je pense que votre ouvrage, en fait, il nous force à ça. Hein. Les forces morales, leur lecture nous oblige à nous demander, mais au fond, qui nous sommes ? Et j'en reviens à la question de la grandeur et notre finalité. Ce qui m'a amené à la dernière question, parce qu'il nous reste 3 minutes, c'était, est-ce que un nouvel ouvrage est en préparation dans la suite de vos enseignements ?
Pour l'instant, non.
Pour l'instant, non.
Mais en fait, j'avais écrit un texte il y a longtemps, et que certains me disent, oh, tu devrais le sortir, ça s'appelait La fabrique des orques, l'illusion d'un monde sans Dieu.
Un texte qui pourrait être quoi, publié sous forme d'un petit opuscule ou
Oui, ce serait plutôt un opuscule. Mais en fait, c'est de montrer que finalement, le christianisme était le centre de gravité de nos sociétés. C'est-à-dire, en fait, parce qu'elle tenait le centre au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, l'homme sans Dieu et Dieu sans l'homme. Il y avait l'antispécisme d'un côté et le transhumanisme de l'autre, etc. Sauf qu'en fait, Dieu ne veut pas faire notre bonheur sans nous. Mais il veut nous combler, donc il a juste besoin qu'on lui dise oui, donc il est vraiment au centre. Si on peut pas faire notre on peut pas faire notre salut sans lui, évidemment, c'est lui notre sauveur, mais il a besoin de notre acquiescement et qu'on dise oui, et à ce moment-là, on peut pas aimer sans liberté, quoi. Et de l'autre côté, il est créateur de l'univers et il a fait les choses bonnes. Donc, si vous voulez, l'idée, c'était de revenir au centre de gravité en disant d'avoir détruit le christianisme comme c'est à la mode aujourd'hui et de laisser les forces centrifuge se libérer, et ben en fait, ça peut que rompre l'unité de la société. Voilà, c'est ça l'idée.
Ben, je ne peux que vous inciter à le publier parce que au moment où les plus hautes autorités de l'État et des armées évoquent un danger de guerre et un risque civilisationnel, au fond, rappeler à tous ces esprits qu'une civilisation qui oublie ses origines et ses fondements n'a plus grand avenir et que dans ce cas-là se pose la question de quoi défendre et qui défendre, eh ben votre opuscule, à mon avis, aurait tout son intérêt et toute son importance. En tous les cas, cher Pierre, moi, je ne peux qu'inciter nos lecteurs à acquérir votre livre, hein, Les forces morales, les clés de la réussite aux éditions du Cerf, parce que ils auront une révision tout à fait pratique de ces vertus morales dont ils ont peut-être oublié l'intitulé. Pour les plus âgés, nos auditeurs, eh bien, ça leur permettra d'évoquer avec leurs enfants et leurs petits-enfants ces vertus de plus de 2000 ans. Sans lesquels aucune vie en société est vie heureuse. Parce que c'était peut-être ça qu'on a oublié d'évoquer, c'est que la clé de tout ça, vous qui êtes thomiste, c'est que tout ça, c'est pour être heureux, au fond. À la différence de Kant et même de Comte Sponville aujourd'hui, on ne déroule pas une liste d'obligations morales simplement pour qu'une société se tienne, mais on met en œuvre ses vertus pour être profondément heureux. Et donc, si vous nous avez aidé aujourd'hui à réfléchir sur les vertus morales, ce qu'elles sont, leurs finalités et la façon dont vous les avez mis en œuvre durant votre carrière, eh bien, je pense qu'une partie de nos objectifs a été atteint. Et donc, j'espère vous avoir de nouveau à l'antenne pour prolonger cet entretien. En tout cas, cher Pierre, merci beaucoup.
Merci Philippe de votre confiance.
Merci.
Venez d'entendre le libre journal de la Défense, dirigé par Philippe Nicolardeau, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, lundi 23 février 2026, de midi à 13h30, et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Et je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.